11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Elle vient de passer une annonce sur Le Bon Coin, vend robe de mariée comme neuve, ayant failli servir presque cette fois, la Catherinette Léalando.
Et oui, j'ai oublié la possibilité de se marier. Bonjour.
Par souci écologique, il ne partira pas en vacances cet été afin de réduire au maximum son empreinte carbone. Non, je plaisante, il ne partira pas parce qu'il est juste fauché. Ben H est avec nous.
Et je lance une cagnotte. Bonjour Anne, bonjour la France.
Pour lui, chercher un nouveau président au parti Les Républicains, c'est comme chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. L'expert en politique, couture et bonne humeur, Didier Porte. Ouais. Comme le rappeur Jay-Z, il aimerait devenir le premier chroniqueur à devenir milliardaire. Allez, courage, plus que 69 000 années de salaire avant d'y arriver. Le motivé, Jean-Philippe
Pignini. J'y suis presque.
Bonjour les amis.
C'est bien parti.
Et celle qui soupçonne des hackers d'avoir piraté son compte venteprivée.com parce qu'elle ne rentre plus dans le pantalon taille 40 qu'elle a commandé. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre explication. La victime d'un ignoble complot, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte est très inquiet pour un homme politique. Oui. Il nous dira qui tout à l'heure. À 11h30, nous recevrons les comédiens François Vincentelli et Ambroise Michel à l'affiche de la série Double Jeu, dont les deux prochains épisodes seront diffusés demain soir, vendredi, sur France 2. Jean-Philippe Zy nous racontera que, comme dans la série, sa femme a un ami imaginaire. Et à partir de 11h50, notre invité sera le chanteur Eddy De Pretto, qui commence ce week-end sa tournée des festivals. Ben H nous expliquera pourquoi c'est son chanteur du moment. Et Léalando lui a préparé une interview abusive.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
On commémore aujourd'hui le 75e anniversaire du débarquement et après la cérémonie de ce matin, Emmanuel Macron et Donald Trump vont déjeuner ensemble à la préfecture de Caen. Qu'est-ce que vous diriez à Donald Trump si vous déjeuniez avec lui, Jean-Philippe ?
Je lui dirais ce qu'apparemment personne ose lui dire, de changer de coiffeur.
Et alors ça donne quoi en anglais ?
Go to Frank Provo.
Léa ? Moi, je lui dirais alors, Donald, à votre avis, qu'est-ce qui a le plus de succès ? Un vieux avec une jeune ou un jeune avec une vieille ? Non, parce qu'ici, à Europe 1, on n'est que des jeunes avec une vieille.
Mais quelle peste ! C'est une peste !
Je ne cautionne pas du tout ça.
Puis, tu veux que je dise ton âge à l'antenne ?
Bah, tu peux.
Ouais. Voilà. Bah, elle a quand même 40 ans. Et j'en ai 53, donc je suis pas vraiment vieille.
Mais moi, je les fais pas.
Bah, moi non plus. Et moi, je fais 46.
Oh, battez-vous dans la boule.
Mais moi, je vais à la cantine, je vous laisse.
Alors Ben H, qu'est-ce que vous le diriez à Donald Trump ?
Ah bah si je devais manger avec lui, je lui dirais exactement ce que je vous dis à vous, Anne.
C'est-à-dire ?
Mollo sur les frites.
Ah non, mais c'est ma fête ce matin. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
En marge des cérémonies de commémoration du débarquement, Emmanuel Macron et Donald Trump sont censés déjeuner ensemble. Si au moment de se saluer, il nous rejoue le sketch « C'est moi qui lâcherai ta main le dernier », va falloir les nourrir avec la paille.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'entretiendra et déjeunera avec Donald Trump avant les cérémonies de commémoration du débarquement. Entretien plus déjeuner avec Trump, je propose qu'on rebaptise cette journée « Il faut sauver le soldat Manu ».
Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Prada présente sa collection printemps-été 2020 à Shanghai aujourd'hui et on ne m'a rien dit. Et comment je vais me fringuer, moi, pendant l'été 2020 ? Comment ?
Toujours pareil.
Jean-Luc Mélenchon a été fragilisé après les européennes, mais il serait toujours en lice pour la présidentielle de 2022. Bah, de toute façon, maintenant qu'il a un hologramme, je suis sûr qu'il pourra aussi se présenter en 3022. Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Didier Port, Ben H, Jean-Philippe Vizini, Léa Lando et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Azur Eva d'une semaine pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Lando,
bienvenue.
Et le sémillant, la joie de vivre incarné sur la terre, Didier Porte.
Ah bah dis donc, ça va.
Je suis censé faire un commentaire.
Oui.
Bah,
oui.
Un petit cri de joie, Didier.
Bah voilà, je suis content.
Ouais.
Didier, notre jeu s'intitule
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Mardi, le prix Goncourt de la biographie Edmond Charlot a été remis à l'auteur franco-suisse Frédéric Pajax pour le 7e tome de sa série Manifeste incertain paru aux éditions Noir et Blanc. Vous devez deviner des personnalités qui ont écrit leur biographie.
Wow.
Cette semaine, Azureva spécialisée séjour en village et résidence de vacances vous offre votre séjour d'une semaine, 8 jours 7 nuits pour 4 personnes au cœur des plus belles régions de France. Venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif, sport ou bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour vous et que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne, vous trouverez des formules adaptées à vos envies. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Ouais.
Et vous, à choisir, vous choisiriez entre gourmand ou sport ?
À ton avis.
Non, moi je choisirais bien-être.
Bien-être. Okay.
Alors on joue avec Brigitte. Bonjour Brigitte.
Bonjour Anne. Bonjour à tous.
Vous avez 65 ans aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je crois qu'on peut vous chanter bon anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Ouais, on va s'arrêter là.
Ça pique là.
Oui, ça pique. Elle le dit elle-même, ça pique.
Ça pique, mais c'est bon.
Alors, vous habitez à Tosse, dans le 40, où est-ce ?
C'est au Sud-Élande, à côté d'Ossebor.
D'accord.
D'où ce petit accent qui chante.
Mais si on veut.
Vous êtes retraitée, vous êtes mariée depuis 41 ans.
Toutes nos condoléances.
Oui, oui, monsieur, oui.
C'est quoi le secret, comme ça, de durer 41 ans ?
Le secret, je ne sais pas s'il y a un secret particulier, c'est de garder un petit peu sa liberté, quoi.
Ah.
Voilà. Vous l'avez trompé combien de fois, du coup ?
Ça va, partez pas tout à la fois.
Non, disait, vous êtes fidèle ou vous papillonnez ?
Oui, tout à fait.
Oui, j'ai mes activités.
Voilà. Ah. Activités, voilà.
Quoi comme activité ?
Le cours de Zumba.
Voyage avec des amis.
Ah, vous partez sans lui en voyage ?
Ça m'arrive.
Ah.
Au Cap d'Agde.
Et après, vous êtes content de vous retrouver, quoi, du coup ?
Bien sûr.
Comment il s'appelle, ce monsieur ?
Il s'appelle Jean-Louis.
Jean-Louis. Brigitte, vous prenez la liste 1 ou la liste 2 ?
La 1.
La 1, et vous jouez avec qui ?
Avec Jean-Philippe, s'il veut bien.
Oui.
Donc là, ce sont des personnalités qui ont créé leur autobiographie. Vous êtes prête ?
Oui, je suis prête.
Attention, top chrono.
C'est l'actrice qui joue Joséphine Ange Gardien sur TF1.
Mimi Mathilde.
Ouais. C'est le tennisman qui chante Saga Africa.
Et Yannick Noah.
Ok. C'est celui qui chante Sous les sunlights des tropiques. Il est non-voyant. Ok. Elle était dans la comédie Le Notre-Dame de Paris. C'était la fille avec Patrick Fiori et...
Cigara.
Ouais, lui c'est celui sur M6 qui fait l'aventurier, il a une émission d'aventure, il est québécois. Sur M6. Alors c'est pas grave, un humoriste qui était avec Michel Larocque, qui fait aussi le sketch du Scrap, le colonel.
Pierre Palmade.
Ok, lui c'est l'acteur qui joue dans Le Professionnel, Peur sur la ville.
Trop tard.
Elle l'a dit sur le gong, non ?
Et 5 bonnes réponses. C'est bien 5. Tout, Brigitte. Hein.
Bravo. J'ai les joues toutes rouges, là.
Les joues toutes rouges ?
J'ai eu peur.
Bah oui.
On a tous eu peur.
Mais les gens qui écoutent trouvent toujours que c'est très facile quand on est chez soi, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est toujours plus compliqué avec le stress.
C'est vrai.
Alors, 5 bonnes réponses, on va voir comment se débrouille Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Bonjour Pascal, vous avez 45 ans, vous habitez à Vénier dans le 37, à côté de Tours. Vous êtes commercial en quoi ?
Je vends du chemin de câble électrique, du matériel électrique en fait.
Alors vous êtes marié depuis 18 ans et vous avez rencontré votre femme chez Darty.
Ah oui, décidément on aime l'électrique.
Et elle est toujours sous garantie ou pas ?
Oui, exactement, elle est encore sous garantie.
Comment ça s'est passé ? Vous lui avez réparé une télévision, c'est ça ?
Non, c'est pas du tout ça en fait. Il s'avère qu'en fait elle m'a acheté un téléviseur.
Ouais.
Et puis donc en fait il est tombé en panne très rapidement à la livraison.
Ah.
Donc elle est revenue en magasin pour se plaindre et elle est venue se plaindre à moi et de fil en...
Et vous aviez un tube cathodique à lui proposer.
Donc
exactement.
Elle est venue se plaindre et vous avez fait quoi alors ?
On a commencé par discuter longuement et puis on a poursuivi la discussion après le boulot quoi.
Et vous lui avez réglé les chaînes ?
Voilà, c'est ça exactement. J'ai fait du service après-vente pendant tant d'années. Quoi.
Mais qu'est-ce qui est devenu le téléviseur ? Vous avez réussi à le réparer ?
Maintenant, ils s'en foutent, ils sont ensemble, ils n'ont plus besoin de télé.
Ah, le téléviseur ? On l'a offert à son père.
Ah, mais vous l'avez réparé
à l'époque.
Vous l'avez réparé?
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui.
Professionnel avant tout.
Absolument.
Bien sûr.
Pascal, vous allez jouer avec qui?
Léa, j'aimerais bien jouer avec Léa. Ouais.
C'est vrai que ce matin, un chauffeur Uber m'a dit « Léa, c'est la meilleure dans le jeu ».
Ah bon ?
Oui.
Ouais, mais alors,
il m'a dit « Vous êtes vraiment pas top ». Ah,
c'est quelqu'un qui connaît bien l'émission.
Oui,
hein.
Ça c'est sûr. Bon, alors, vous êtes prêts à jouer, Pascal ?
Il faut faire plus de 5 et, c'est pas facile,
facile.
Des personnalités qui ont écrit leur autobiographie. Attention, top chrono.
Alors lui, c'est un slammer, il a une canne.
Gros corps malade.
Oui, lui, il chantait « Le petit bonhomme en mousse ». Oui, elle présente elle 20h. Elle est partie.
Chazal.
Oui, elle c'est une chanteuse, elle chantait Je serai ta meilleure amie. Très jeune.
Laurie.
Oui. Oui. Lui il a joué Cyrano, c'est un grand acteur qui a une nationalité russe maintenant, qui fait du vin.
Depardieu.
Oui, lui c'est un nageur, il a des beaux yeux bleus, il est très grand. Il a un prénom mixte.
Un garçon.
Alors elle c'est une actrice chanteuse handicap.
Mais égalité, 5 bonnes réponses.
Aïe.
La force de départager.
5 bonnes réponses. Alors vous êtes là, Brigitte?
Oui.
Et ben vous partez tous les deux en week-end.
Non, Brigitte et Pascal, concentrez-vous, c'est moi qui vais vous faire deviner, d'accord?
Allez,
le plus rapide, hein.
C'était la plus célèbre rappeuse française. Elle a arrêté sa carrière. Maintenant, elle a des enfants. La Boulette.
Oui, c'est
elle
bon.
Elle l'a dit.
Et bravo, Brigitte.
Oui.
Ouais,
bravo, Brigitte.
Un cri de joie, Brigitte.
Oui.
Youhou. Et Jean-Louis peut faire un cri de joie à côté.
Jean-Louis, un cri de joie. Allez, vas-y.
On dirait une grenouille.
C'est pour ça aujourd'hui.
Ah, grâce à Azureva, spécialiste des séjours en village et résidences de vacances, vous avez gagné un séjour d'une semaine, 8 jours, 7 nuits pour 4 personnes, au cœur des plus belles régions de France. Venez découvrir nos sites labellisés famille, nature, gourmand, festif, sport ou bien-être. Il y aura toujours une activité faite pour vous. Et que vous soyez adepte des destinations mer, océan, montagne ou campagne, vous trouverez des formules adaptées à vos envies. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. On est désolé, Pascal.
C'est pas grave, c'est un plaisir de jouer avec vous tous, c'est bien.
Ouais, il a les boules, tu sais, le mec.
Non, ouais, il est très fair play.
Vous n'allez pas vous pendre un câble électrique, là, Pascal, rassurez-moi.
Non, pas du tout. Non.
Est-ce que vous allez venir chez moi me réparer ma télé, parce que je galère?
Oh là.
Je me disais.
Il n'est pas célibataire, Pascal.
Non, mais c'est pas dans ce sens-là.
Ah,
mais...
Vous voulez vraiment réparer votre télé?
Mais écoute, je sais, chaque fois pour l'allumer, je mets 10 minutes. C'est pas normal.
Mais il faut appuyer sur le bouton.
Mais non, parce que tu sais, maintenant, t'as deux télécommandes, t'as la box. Et des fois, ça s'allume tout seul. Et des fois.
Alors j'ai un indice, quand ça s'allume pas tout seul, c'est que c'est pas la bonne télécommande.
Oui, c'est ça.
Ça peut être une piste de réflexion. Pour un...
Oui. Si quand vous appuyez, c'est le micro-ondes qui part, c'est pas la bonne. Il faut changer la télécommande.
Pascal.
Oui.
Non, mais j'aimerais bien, par exemple, avoir un lecteur DVD, tu vois, je sais.
Ah, vous n'êtes pas au niveau pour ça encore. Commencez
étape
doucement avec la 1 et
mais
la 2.
J'ai déjà 2 télécommandes, donc tu vois.
C'est... Ah oui, une 3e, ça va t'embrouiller. Ouais, mais tu sais que surtout, plus personne n'a de DVD quasiment. C'est la VOD maintenant.
Mais vous avez l'habitude de vous occuper de personnes âgées comme ça dans le cadre de votre métier.
Bon, Brigitte, on vous embrasse. Profitez bien. Et puis, Pascal, n'hésitez pas à rejouer avec nous avant début juillet. On vous embrasse tous les deux.
Au
revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Jean-Philippe Bizzini et Didier Porc, qui nous expliquera pour quel homme politique il est tellement inquiet.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Landau, Ben H, Didier Porte. D'après une étude, un tiers des Français mangent en utilisant un écran, que ce soit seul ou en société. Ce chiffre grimpe même à 50% chez les 18-34 ans. Est-ce que c'est votre cas, Jean-Philippe?
De manger avec un écran? Oui, nous, à la maison, on a essayé de manger en utilisant un écran. Mais le problème, c'est qu'on en fout partout. Alors du coup, on a recommencé à utiliser la fourchette et le couteau.
Didier?
Oui, alors je suis bien obligé de l'admettre. Il m'arrive plus souvent qu'à mon tour de déjeuner devant l'écran resté allumé de mon téléviseur, tout simplement parce que j'ai eu la flemme de me lever pour l'éteindre.
Donc. Didier, ça fait longtemps que vous n'avez pas été inquiet pour quelqu'un à ce micro. Qui donc ce matin est l'objet de votre sollicitude ?
Yannick Jadot, ma chère Anne. Yannick Jadot, je me demande si tout ne va pas un peu trop vite pour la tête de liste écologiste aux européennes. En quelques jours, il est passé du statut d'obscur inconnu, dont le principal titre de gloire est d'avoir prouvé que bouffer du quinoa à tous les repas, c'est bon pour la croissance, il mesure 1m91, à celui d'homme politique préféré des Français et futur présidentiable. Comment a-t-il réussi ce coup de maître ? Eh bien, en faisant comme les copains, en posant pour Paris Match, main dans la main, le soir même de l'annonce des résultats, avec sa compagne de relativement fraîche date, 2 ans, me semble-t-il, la très pétulante Isabelle Saporta. Et c'est là que j'interviens, en m'autorisant quelques conseils à ce jeune couple qui m'a l'air d'avoir bouffé du lion, ce qui n'est pas recommandé pour des écologistes. Yannick et Isa, jeunes chiens fous que vous êtes, n'abusez pas des partenariats avec séances de pause pour Paris Match, lesquels ne sont pas franchement dans la culture écologiste. Les rares fois où Noël Mamère et José Bové ont accepté des interviews dans la presse magazine, ils ont posé avec leurs moustaches, pas leur petite amie. Quant à Eva Joly, les quelques occasions qu'elle eut de se rendre dans les locaux de Paris Match, ce ne fut pas pour poser, mais pour perquisitionner. Donc il faut continuer, mais en douceur, en veillant à ne pas froisser les militants qui désapprouvent ce type d'exhibition. Prochaine étape, l'incontournable série de photos de vacances à la plage, les pieds dans l'eau, en costume de bain. J'ai bien dit en costume de bain, pas tout nu. Hein, non, parce que vous, les écolos, on vous connaît. Et la plage dans le Pas-de-Calais, s'il vous plaît, pas aux Bahamas. Pensez aux militants qui n'ont peut-être pas tous été informés que désormais, ils ne sont ni de droite, ni surtout de gauche. Les photos pourront avoir une connotation légèrement sexy, mais toujours sur un mode allusif. Par exemple, Isabelle, tout en marchant dans l'eau étroitement enlacée par votre amoureux, vous pourriez déguster un esquimau au quinoa. Mais pour qu'on puisse lire dessus l'inscription quinoa, il faudra que ce soit un très gros esquimau. Hein. Ça nous donnera une photo à la fois discrètement sexy et militante. Ah oui, et puis attention Isabelle, interviewée par le magazine Quotidien, vous vous êtes exclamée, je vous cite, « Il est mignon, il est vachement mignon mon mec quand même !» Fin de citation. N'oubliez pas qu'il vise la présidence de la République, votre mignon, pas celle de Gulli. Oh, mon mec, il est mignon, je le kiffe trop. Hein, oh, 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 c'est bon, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Alors les papouilles énamourées, vous les mettez en veilleuse. Je conclurai par un conseil personnalisé adressé aux candidats. Si tu vises l'Élysée, mon petit Yannick, change de compagne. La profession de journaliste est trop clivante. Trouve-t'en une qui fait un métier qui a la cote. Pourquoi pas CRS ? C'est très tendance depuis quelques mois. Mais le choix risque d'être un peu limité. J'ai encore mieux à te proposer. Pompière de Paris. Là, par contre, tu oublies la plage et tu poses avec elle en uniforme devant les ruines de Notre-Dame. Avec ça, non seulement tu fais la cover de match, mais dans 10 mois, tu es maire de Paris. Merci qui ? Merci moi.
Anne Romanoff sur Europe 1. Je pense que ces conseils vont beaucoup aider Yannick Jadot, Didier Porte.
Oui, oui, je, incontestablement.
Vous êtes prêt mal coaché, même si besoin.
Ah, mais bien sûr, contre du pognon, oui.
Avec tous les frais de pressing qu'il a.
4 millions de Français se sont connectés au dernier moment pour déclarer leurs revenus en ligne, ce qui a entraîné un bug sur le site des impôts. Voici le top 10 des excuses pour faire sa déclaration au dernier moment. T'as payé tes impôts à la dernière minute ?
Ouais, je me suis dit qu'un peu comme pour un billet d'avion, peut-être qu'à la dernière minute, il y aurait une petite promo.
Je savais pas qu'il fallait tout de même déclarer ses impôts alors qu'ils se servent déjà à la source. C'est un peu comme si je montrais ma nouvelle voiture à celui qui vient de me voler mon portable.
Oui, oui, je sais, je t'ai dit que ça faisait une semaine que je l'avais fait. Bah voilà, je fais comme toi, chérie. Quand tu me dis je suis prête dans 5 minutes, tu mets 2 heures. Et ben moi, c'est pareil.
Mais pourquoi t'as attendu la dernière minute pour payer tes impôts ?
Bah j'ai une grand-mère un peu mourante, j'espérais pouvoir toucher les sous avant la date butoir. Ouais, j'ai envoyé ma déclaration au dernier moment, mais c'est parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai cherché le formulaire déclaration d'impôt à la Patrick Balkany. Ouais, j'ai pas trouvé.
Pourquoi j'ai autant tardé à envoyer ma déclaration ? Ben parce que je n'ai aucune confiance dans un service qui, visiblement, égare régulièrement tous les documents. Je leur ai déjà envoyé ma déclaration l'année dernière, l'année d'avant et encore avant, et ils persistent à m'en réclamer une nouvelle chaque année. Avouez que c'est un comble.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Didier Porte, Ben Nall, Jean-Philippe Bizini et nos invités, les comédiens François Vincentelli et Ambroise Michel, pour la nouvelle série Double Jeu, dont les 2 prochains épisodes seront diffusés demain soir, vendredi, sur France 2.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Bisini, Lalando Benhache.
Oui, oui. Bonjour.
Et nos deux premiers invités qui sont comédiens. Ils sont tous les deux à l'affiche de la nouvelle série de France 2 que vous retrouverez tous les vendredis. Double jeu. Je écris J-E, détail qui a son importance, puisque dans cette série, l'un de mes invités est l'ami imaginaire de l'héroïne, capitaine de police, et l'autre est un policier bien réel et bien séduisant. Comment tout cela va jouer sur les enquêtes? Ils vont nous le dire en jouant le jeu en double. Applaudissez François Vincentelli et Ambroise Michel. Bonjour, alors parlez-nous de cette série, François Vincentelli et Ambroise Michel.
Alors c'est une capitaine de police, le capitaine Versini, qui est une jeune femme séduisante et un peu bordélique, qui a comme particularité d'avoir un ami imaginaire. C'est-à-dire
qui est que, vous, qui est joué par vous.
Que personne ne voit à part elle et le téléspectateur. Et qui l'aide à résoudre ses enquêtes, mais aussi qui l'aide dans sa vie personnelle. Et qui est une sorte de Jiminy Cricket. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Jimmy.
Et vous, Ambroise Michel, vous jouez un vrai policier, vous, oui, qui vient perturber cette héroïne parce que vous la draguez un peu, tout ça.
Bon, voilà, je vais un petit peu perturber le commissariat, et puis surtout dans ses habitudes avec l'ami imaginaire.
Donc c'est à la fois une série policière et une série humoristique, on peut dire.
Oui. Absolument, il y a beaucoup d'humour. Et en fait, le problème de ce nouveau partenaire qui arrive dans la vie de la capitaine Versini, c'est qu'il va... l'ami imaginaire, ça ne lui plaît pas du tout, parce que comme elle lui parle, elle lui parle à son ami imaginaire.
Ouais. Elle parle donc, toute seule, en fait, lui.
Oui, donc elle parle toute seule. Donc elle est obligée de trouver des subterfuges, notamment de mettre une oreillette pour faire semblant de parler au téléphone. Mais en fait, elle parle à un mec qu'elle est seule à voir. Donc à partir du moment où on a compris le mécanisme et les règles du jeu, c'est très jouissif pour le téléspectateur de connaître ce que les autres protagonistes du film ne voient pas.
Alors Ambroise Michel, on vous a connu dans Plus belle la vie. Alors vous, chaque fois que vous jouez dans une série, ça cartonne. Parce que Plus belle la vie, vous avez fait combien de temps?
8 ans et demi.
Cut, ça a marché aussi.
Oui, tout à fait.
Et Nina aussi, content. Chaque fois qu'il est dans une série, ça marche.
Bah, c'est pour ça que j'ai accepté le rôle. Ça marche.
Pourvu que ça dure.
Ça a été dur de quitter Plus belle la vie, Ambroise Michel, parce que c'était le premier endroit où on vous a donné du travail. Vous avez été connu.
Premier endroit, non, parce que j'ai commencé, j'avais 12 ans, mais ça faisait très longtemps.
Vous avez été identifié comme Rudy Torres par les gens.
Oui, voilà. En tout cas, c'est-à-dire que c'était avant, il y avait une espèce de notoriété éphémère. Sauf que Plus belle la vie, après ça ne s'est jamais arrêté. Mais dur, évidemment, oui et non. Oui, parce que tout d'un coup, on quitte un endroit où on est déjà depuis 8 ans et demi, avec qui on a beaucoup on est quand même très proche et on a des habitudes. Et puis c'était une ville dans laquelle je commençais à habiter maintenant depuis, 8 ans et demi. Donc c'est-à-dire c'est de quitter tout ça, de revenir
quitter
à
Marseille,
Paris.
Revenir à Paris.
Ouais, de repartir un peu à zéro. Mais
est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Oh, bah, de toute façon, tu pourras plus rien faire, t'es marqué par la série ».
Bien sûr, mais systématiquement, à chaque fois que je ferai quelque chose, on me dirait que je ne ferai que ça. Mais c'est bien, tant mieux, ça donne un peu de...
Du coup, vous avez fait plein de choses depuis, donc il n'y a pas de problème.
Bah justement, plus on me dit que je ne ferai rien d'autre, plus ça me donne envie de faire d'autres choses.
Ça fait 27 ans que vous avez quitté Plus belle la vie, on continue à vous appeler Rudy dans la rue ou...
Non, maintenant, enfin oui, mais maintenant les gens en tout cas font l'effort, ils ont compris que c'était vraiment mon métier, que je n'étais pas vraiment Rudy dans la vie.
Alors, François Vincentelli, on vous a découvert, le grand public, dans le rôle d'acteur porno Roy Lapoutre dans la série Alarme.
Oui, tout à fait, oui.
Vous avez souvent regardé
rôle de composition.
Vous avez hésité à accepter ce rôle?
Jamais de la vie, c'était le plus beau rôle qu'on m'ait proposé depuis toujours d'ailleurs. C'est extraordinaire, c'est un acteur porno romantique. Et ça, c'est formidable. C'était l'histoire d'une catholique pratiquante qui perd son mari et qui tombe amoureuse d'un acteur.
Qui reprend la boîte de son mari qui est décédé.
Et elle tombe amoureuse de la vedette locale, Roy Lapoutre. Et elle se rend compte que c'est un type formidable qui est très, très romantique, qui adore faire.
Comment vous avez annoncé à votre entourage que vous allez jouer Roy Lapoutre?
Avec beaucoup de joie, parce que je trouve que c'est très drôle. Je trouve que le milieu du porno est une arène extrêmement drôle à partir du moment où on en fait une comédie. Après, si, évidemment,
on connaît très peu, hein, donc.
Ça a été adapté au théâtre. Vous l'avez joué au théâtre.
J'ai joué au théâtre pendant 6 mois.
Après, vous avez enchaîné avec Le Canard à l'Orange, qui a eu plein de
Molières. Arrêté dimanche. C'était la 250e représentation de la saison. Oui, et puis on a eu 7 nominations aux Molières. Et c'était.
Et tu en as eu un.
C'est vous qui l'avez eu. On peut l'applaudir. C'était quel Molière?
Le Molière du meilleur acteur dans un second rôle.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça, exactement.
Comment ça, déjà?
Merci,
bien. Anne.
Mais moi, j'ai jamais été nommé au Molière.
Non, mais je suis très, très heureux.
Ambroise Michel, on ne vous voit pas au théâtre, vous?
Bah là, j'avais possiblement une tournée cet hiver, mais comme on attend la possibilité de pouvoir faire...
double jeu dépendant double jeu de l'audience demain. Deux, hein. Donc ça dépendra de ce que les gens écoutent et regardent. Hein, grâce à cette émission, l'émission, ça va doubler votre mais audience.
Ouais. Pareil, c'est pour
triple
ça qu'on
jeu.
Est là.
Ouais.
Alors, redites aux gens qu'il faut. Qu'il,
oui,
aux gens.
Regardez double jeu. C'est sur France 2 à 21h.
Et si vous ne regardez
c'est
pas
demain.
À la télé,
c'est demain.
Surtout regardez en replay.
Bah non, mais ça compte moins, ça. C'est pas.
Non, ça compte quand même.
Ouh là là, non, parce que ça se rectifie après.
Non, mais regardez en direct. Franchement, ça vaut le coup.
Oui, oui, en direct.
Et vous verrez, il y a. Enfin, je vous dis pas tout, mais il y a une petite surprise.
Ah bon. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, François Vincentelli et Ambroise Michel, venus nous parler de la série Double Jeu sur France 2 qui est demain, les deux prochains épisodes, demain à 21h le 7 juin. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Vizini, Lalando Benache et nos deux invités François Vincentelli et Ambroise Michel venus nous parler de la série Double Jeu qui va passer demain sur France 2, une série policière, humoristique et un peu fantastique, on peut le dire.
On peut le dire, exactement.
Vos projets, François Vincentelli, donc c'est Le Canard à l'Orange.
Le Canard à l'Orange en tournée à partir de janvier et puis d'ici là on va faire la saison 2 de Double Jeu.
Grâce à vous, bien sûr.
Grâce aux audiences de demain, évidemment.
Qui vont cartonner.
Ça a bien marché, les premiers épisodes.
Oui, ça a plutôt bien marché, oui, oui.
Ouais.
Mais bon, on ne sait jamais à qui. Et puis, voilà, donc il faut qu'on...
Vous avez envie de faire la saison 2, elle est déjà écrite.
Ah oui, en fait. Oui. On a très envie de se retrouver, on a très envie de continuer à développer.
Donc dans cette série, il y a une policière qui a un ami imaginaire, incarné par François Vincentelli. Et figurez-vous que Jean-Philippe Vizini, sa femme, a également un ami imaginaire.
Oui, François Vincentelli, Ambroise Michel, je trouve que la série que vous venez de nous présenter est très troublante, car je vis pratiquement la même chose dans ma vie privée. Dans votre série, donc Double Jeu, c'est Déa qui travaille avec Jimmy, un ami imaginaire. Et ben moi, je me suis rendu compte aussi que ma femme avait un ami imaginaire. Alors c'est vraiment très troublant, on est à la limite du paranormal parce que son ami imaginaire, il lui envoie même des vrais textos. Je suis tombé sur un texto qui disait « Tequiro mi amor, signé Pedro », tu vois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, moi... Mais elle non plus, visiblement, parce que depuis quelque temps, elle a décidé d'apprendre l'espagnol. elle s'est inscrite à des cours du soir. Apparemment, c'est vachement bien. C'est des cours individuels de 2 heures que le prof donne à l'hôtel Ibis de Saint-Germain-en-Laye. Ah, j'espère qu'elle va progresser, parce que ça fait 6 mois qu'elle y va. Pour l'instant, la seule chose qu'elle sait dire, c'est « Old El Paso » ou « Guacamole ». Tu vois, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que même le prof d'espagnol, il est imaginaire, tu vois. Alors sur son portable, discrètement, j'ai activé l'option « localiser mes amis ». Comme ça, je la suis en temps réel. Et ben, j'avais raison de penser qu'elle avait du mal à apprendre la langue parce que je me suis rendu compte qu'elle prend même des cours l'après-midi. C'est ça le problème avec la France. On est très mauvais en langues étrangères. Hein. Il y a des pays, ils sont tous bilingues. Et là, ma femme, elle prend des cours de 4 heures par jour et elle sait même pas dire « chorizo ». Alors si, chorizo, elle sait le dire, parce que je suis tombé sur un autre texto de Pedro qui demandait « T'es gusto, mon chorizo ?» Ce à quoi elle a répondu « Si, seigneur, mais il préfère la banane !» Quand je vois ça, c'est rassurant, elle fait attention, parce que le chorizo, c'est plein de cholestérol. Et là, l'été arrive, vaut mieux manger des fruits. Elle est bien, ma femme, hein. En tout cas, je suis content que cette amie soit imaginaire, hein, parce que je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. J'ai presque cru que j'étais cocu. J'ai de la chance, vous trouvez pas, non ?
Ah ouais !
Merci.
Merci François Vincentelli, Ambroise Michel, d'être passé devant. On rappelle votre série, redites le titre.
Double jeu.
Double jeu.
Et
double
c'est
jeu.
Demain sur
France 2,
à
21h.
En prime time.
Demain soir à 21h sur France 2. Bah bonne chance.
Ouais.
Bon,
merci
bon
à vous.
Oui, pour
merci
cette
beaucoup.
Série.
Oui,
merci, à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants et notre invité sera Eddy de Préto, yeah. La révélation musicale de ces deux dernières années. Ne bougez pas.
11h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Vizini, Lalando Benache et notre invité ce matin qui est une des grandes révélations musicales de ces deux dernières années. Il démarre ce samedi une grande tournée des festivals. Ses thèmes sont la virilité abusive, le genre, la normalité, les haters, des sujets ancrés dans notre quotidien qu'il aborde avec fraîcheur et sincérité. Aujourd'hui, il vient nous parler de son album culte, le phénomène Eddy de Préto est avec nous ce matin sur Europe 1.
Ouais. Tu as viré mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir.
Bonjour Eddy de Préto.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci, merci beaucoup.
Vous imaginez pas aussi grand?
Ah ouais?
Ouais.
C'est drôle, on m'a dit le contraire à Montréal il y a deux semaines.
Ah bon?
Enfin ouais, on m'a dit, ah je t'imaginais beaucoup plus grand.
Ah ouais? Et vous gardez toujours votre chapeau sur la tête?
Eh bien oui, ça dépend.
Ça fait un look un peu bizarre quand même,
ah
vous
oui
vous en rendez compte?
Bah, merci beaucoup. Ouais.
Préparez-vous les compliments ici.
J'ai bien fait de venir ce matin.
Non mais c'est un petit bob en jean, c'est
bah,
ça?
Aujourd'hui c'est un bob en jean, mais ouais, hier c'était un bonnet.
Ah c'est tous les jours, c'est différent.
C'est un nouveau chapeau chaque jour, ouais.
C'est pour des raisons capillaire comme moi, parce que moi c'est souvent jamais...
Peut-être.
Peut-être.
Et vous avez un petit polo Lacoste bleu ciel et en dessous une chemise bleue.
Oui. C'est une émission mode. C'est une émission mode.
Ah oui, j'avais pas. D'accord, mais oui. Mais oui. Ouais. Bah, très bien.
Et vous avez tout ça et vous avez des beaux yeux. Quand
merci,
même.
Merci.
Oui. Bah, assorti juste, à sa tenue.
C'est le bleu, je crois, qui peut les faire
ouais,
sortir.
Mais c'est bien,
merci
ça...
Anne, merci.
Alors vous venez nous présenter votre album Cool, qui est en fait une nouvelle édition de votre album Cure. C'est où cette cure? On devient culte, ça m'intéresse. De toute façon, moi j'ai tendance à m'intéresser à tout ce qui commence par Q.
Et ben moi aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ces albums, enfin cette édition s'appelait comme ça. Non, non, mais c'est juste la cure a été, enfin cet album dans le sens le plus banal a été très curatif pour moi, et aussi l'aspect cure j'aimais bien au sens du son. J'ai beaucoup joué avec les sons dans cet album, et cure je trouvais que ça venait un peu titiller l'oreille, un peu rentrer comme ça. Cure, ça ménageait personne, et je pense que ces chansons je les ai pas pensées en me ménageant moi-même. J'y ai été, et dans l'écriture j'ai été le plus brut, le plus direct possible, et je trouvais cure représentait un peu bien cette brutalité.
Ouais, parce que vous racontez des trucs incroyables.
Ah ouais.
Aucune pudeur.
Aucune pudeur, non, non, j'essaie de me censurer le moins possible, et en effet de...
Ah bah
de...
je vous confirme, vous ne censurez pas, hein, je voulais que je vous lise des extraits. Non mais quand même, vous parlez des muqueuses et tout.
Ouais, ouais, elle les a lues ouais plusieurs fois du coup, c'est ça ouais qui est bien.
Bah oui.
Ça c'est des mots qu'on n'emploie pas dans les chansons, normalement les muqueuses.
C'est vrai.
Mais chez l'ORL.
Comme chibre.
Non mais oui, mais normalement oui.
Ah
mais
oui, alors je lis l'extrait quand même.
Ah oui, allez-y, avec votre voix sensuelle, allez-y.
Non mais c'est pas sensuel, j'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles on voit que les muqueuses, puis là je suis rentrée bel et bien les mains nues, avec cet air de déjà vu et l'envie de surplus, j'ai rien trouvé de précis excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence.
C'est beau quand vous lisez, Anne.
Ah oui. Vous pensez à faire un duo tous les deux.
On voit que vous maîtrisez la langue. Enfin, raconter oui on a glissé sa langue, c'est super intime, quoi.
Ben ouais. Mais justement, ça me plaisait d'aller creuser dans ces choses qu'on ne raconte pas d'habitude.
Creuser, c'est l'occasion de le dire.
Oui, hein.
Vous creusez avec la langue.
Mais alors, la fête de trop, il paraît que vous êtes un grand fêtard. Et vous dites maintenant, vous ne pouvez plus sortir parce que vous mettez 3 jours à vous en remettre. Mais vous faites des fêtes qui durent jusqu'au dimanche 18h, non-stop.
Mais elle commence quand?
Parce que vous l'avez dit.
Ah, je l'ai dit.
Alors, il faut qu'on vous présente Léa Landau qui veut challenger un petit peu le...
Là, ouais. Vous faites, commence le samedi soir et se termine le dimanche à 18h.
Ouais, parfois.
Ah ouais.
On saura tout. Hein.
Et vous faites ça pas tout seul avec des amis?
Non. Oui, bah bien sûr.
Non, oui, non. Sinon, ça s'appelle un gros dépressif alcoolique.
Mais vous allez où? Parce que le samedi soir, on peut comprendre, mais après le dimanche, vous allez où?
Mais non, mais d'after en after en after.
Mais oui, mais des after, le dimanche, il y en a à 11h du matin.
Oh, il va à la boulangerie.
After, ouais. Partout, ouais.
Et vous faites quoi ce week-end?
Ah oui, emmenez-la faire ça. Ah la tournée des afters.
Bah oui, je vous amène, Anne.
C'est vrai. Ah,
ouais. Mais on va avoir 6 mois de congé après.
Ouais, c'est
Léo Androumanov, bah, aux urgences. Là.
Mais vous prenez des substances aussi, vous, non?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Non. Ah oui. Pas sur Europe, en tout cas.
Non, d'accord. Mais vous avez arrêté tout ça aussi, parce que vous êtes un peu excessif, Eddy de Préto.
La police est en région.
Est-ce que je suis un peu excessif? En tout cas, j'aime pas la demi-mesure, donc j'aime aller intensément dans les choses et les vivre intensément. Ouais.
D'accord. Et alors, donc sur cet album, il y a 15 titres de l'album Cure, plus 4 titres inédits, plus 3 versions instrumentales. En fait, c'est pas un album, c'est une formule mathématique. Non, 4, 3. Pourquoi avoir choisi de customiser l'album précédent plutôt que de refaire un album tout entier? C'est parce qu'on change, pas une équipe qui gagne, ou comment ça se passe?
Non, mais c'est une réédition. C'est que j'avais encore des titres dans la poche, que je les avais écrits l'été, où je suis, l'été dernier, où je suis parti sur les festivals. On avait 10 chansons et puis j'en ai gardé que 4 et on s'est dit qu'il fallait les mettre et que ça me plaisait de vouloir reprendre la parole aussi parce que je trouvais que ces textes étaient dans la même direction, la même lignée que ces premiers titres qui étaient sortis la même année. Donc voilà.
Vous êtes surpris par votre succès, Edith de Préto, ou alors vous dites
Est-ce que je suis surpris que ça s'ancre dans une réalité, parce que j'ai toujours rêvé de ça petit, j'ai toujours voulu faire de la musique, être sur la scène, donc avoir aussi de la reconnaissance et pouvoir en vivre tous les jours. Donc surpris, oui, que ça arrive sur un premier album, oui, je m'attendais pas, je pensais que ça serait plus difficile dans la longueur,
ça prendrait plus de temps.
Ça prendrait plus de temps.
Alors il y a des thèmes.
Après il y a encore tout à faire, ça veut rien dire trop.
Bah c'est un bon début déjà.
Oui c'est un bon début, mais il y a tout à faire.
Ah bon?
Mais faut durer après.
Ouais c'est ça. Hein. Voilà. Moi ça fait 30 ans. Hein,
oui, comment vous faites?
C'est parce que j'ai pas de chapeau. Ah voilà. Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Edith de Préto, venu nous parler de son album culte, nouvelle édition de son premier album Cure, et 22 titres avec 4 inédits, 3 versions instrumentales. Et puis Edith de Préto vient de faire une série de 10 concerts à l'Élysée Montmartre et il sera en tournée dans tous les festivals cet été. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Bissigny, Lalando Benhache,
et notre
invité Edith de Préto, veut nous parler de son album culte, nouvelle édition de son premier album Cure. Alors vous avez été aussi révélation de l'année 2018, tournée complète. Cet album Cure est déjà double disque de platine, première place du top en France, 4e en Belgique. Ça continue ce succès incroyable.
Oui. Non, franchement c'est énorme, j'ai été j'ai énormément de chance, je suis très.
Vous êtes
très
jeune
content.
En plus, 26 ans.
Ouais.
Vous rendez compte, vous avez la moitié de mon âge pratiquement.
C'est fou,
vous pourriez être mon fils.
Ben oui,
quelle chance. Vous auriez aimé m'avoir comme mère.
Énormément.
C'est vrai.
J'ai pas plus grand rêve.
Non. Et le César du meilleur acteur.
Alors, vous êtes un peu dur, je trouve, avec vos parents.
Ah, c'est pas vous.
Non, mais alors vous avez souffert aussi. Il y a le thème de la virilité abusive où votre père, qui était chauffeur routier, voulait absolument que vous soyez viril. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. C'était ça.
C'est pour.
Le fait de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est bon signe. C'est signe que les choses évoluent. Vous pensez que ça.
Généralement.
En général, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit, qui se sont connus?
Oui, beaucoup m'ont écrit, beaucoup de professeurs en langue m'ont parlé de cette écriture et de cette cassure, cette cassure des choses établies, des mœurs établies, et que c'était. Il y en a beaucoup qui. Ça aide à avancer énormément.
Vous parlez aussi de la normalité dans cet album, et vous dites justement que vous vous êtes jamais senti normal, vous.
Oui, je me suis jamais senti normal, et ça, justement, déplace un peu le cursus de la marge vis-à-vis de la normalité dans un contexte. Et donc, du coup, constamment, on est renvoyé à comment être normal. Est-ce que t'es normal? Est-ce que t'es pas normal? Et quand tu ne l'es pas fondamentalement, c'est-à-dire que tu penses que vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'un groupe, tu ressors totalement par le physique ou par ta condition sexuelle ou par d'autres conditions, forcément, ça change le curseur et ça te met un point de vue totalement différent vis-à-vis des autres, et ça te fait réfléchir un peu beaucoup plus intensément sur toutes ces questions d'identité, justement.
C'est pour ça que vous êtes un artiste aussi, Edith de Préto.
Peut-être.
C'est venu de là.
Parce que j'ai trop réfléchi. Oui, en tout
cas.
Non,
parce qu'il y a eu un malaise au départ, une souffrance, une hypersensibilité aussi.
Alors,
j'imagine.
Peut-être c'est ça, mais en effet, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de sur-soi, de recherche comme ça, intérieure, et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'exprimer d'une autre manière.
Puis une grande curiosité artistique, parce que vous avez touché à peu près à tout.
Oui, c'est vrai que j'ai fait du théâtre, ouais. C'est vrai que j'ai commencé par le théâtre. Ensuite,
c'est votre maman qui s'est aperçue que vous n'étiez pas bon en sport, elle vous a proposé de faire du théâtre. Donc,
ma mère voulait que je fasse du piano ou du théâtre, ouais. Enfin un truc artistique, que je m'intéresse en tout cas à la culture. Et donc, du coup, elle m'a amené au théâtre. Et
donc, puis... elle a eu quand même le nez, votre maman.
Bah oui, totalement, totalement.
Non, parce que vous dites un peu des trucs sur elle, je trouve ça dur.
Elle prend la défense des mères.
Ouais, mais c'est pas qu'une chose, c'est pas qu'une chose. Personne n'est qu'une chose. Donc là, oui, bien sûr, elle m'a amené au théâtre et c'est fou. Mais aussi, il y a eu d'autres choses... établi. Ouais.
Mais du coup, maintenant, comment vos parents vivent votre succès, Eddie De Pretto ?
Très bien, je crois.
Ils sont
très fiers, très contents.
Ils viennent vous voir en concert ?
Oui, oui, oui. Oui. Ouais.
Votre père pense que c'est de la musique de bonhomme ?
Je sais pas. Il n'y a pas de discussion trop, mais en tout cas, j'espère que ça lui... Je crois que ça lui fait plaisir. Ouais.
Et alors, à 18 ans, vous commencez à écrire vos propres chansons et un jour, vous chantez I Believe I Can Fly dans une MJC. Là, c'est la révélation. Vous dites, j'étais tout frêle, tellement stressée, parce qu'il y avait beaucoup de rap. Je n'étais pas du tout dans ces codes-là.
Oui, c'est vrai. J'étais à la MJC en bas de chez moi. À Créteil, c'était le spectacle de fin d'année. Et on nous demandait donc de chanter un peu comme toutes les kermesses de fin d'année. Et tout le monde, c'était vraiment, tout le monde faisait du rap. Et moi, j'arrivais avec une petite chanson chantée, I Believe I Can Fly, où il y a beaucoup de vibes. Et j'étais très, 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 très stressé par ça. Et en fait, c'est vrai que dès que je suis sorti, il y a eu beaucoup de motivation. Les gens étaient très, très, très enthousiastes. Et ça m'a fait énormément plaisir. Ouais.
Là, ça a été le début. Vous avez dit, je peux peut-être faire quelque chose dans la chanson.
En tout cas, je me suis dit, j'aime les sensations que ça me procure. Avant, c'est détestable et après, c'est généreux. Donc.
Par rapport à vos concerts, vous dites que vous aimez beaucoup de sobriété, en fait.
Oui, le minimalisme, moi, j'adore ça.
Vous avez un seul musicien sur scène, Eddie De Pretto, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est un batteur. Et mon téléphone, ouais.
Vous lancez avec votre téléphone les musiques
Alors, oui. Voilà.
Bon, personne fait ça.
Personne fait ça, oui, c'est vrai. Hein.
Se suffire à soi-même.
Voilà, exactement. Non, mais je trouvais que c'était beaucoup plus, d'autant plus fort et beaucoup plus puissant et beaucoup plus claque dans la gueule d'arriver avec peu de choses. J'aime cette idée-là, d'arriver avec peu de choses visuelles et d'en envoyer le plus possible avec des mots qui percutent, des mots qui rentrent dans ta gueule et puis rien à voir, juste à entendre et à écouter et tenter la discussion la plus directe. Et qu'on matche le plus vite possible.
On va écouter des mots qui rentrent dans ta gueule.
Europe.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Je ne sais pas si ce sera l'émission de trop avec Jean-Philippe Bizigny, Léa Landau, Ben H. Et notre invité Eddie De Pretto venu nous parler de son dernier album culte qui vient de sortir, édition de son premier album Cure. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Bizigny, Léa Landau, Ben H. Bienvenue. Et notre invité Eddie De Pretto qui sera en tournée dans tous les festivals cet été. On peut donner date, samedi 8 juin Saint-Laurent-de-Cuve, dimanche 9 juin Talence, 14 juin Marseille, 27 juin Rue Homs, 28 juin Clermont-Ferrand, 29 juin Nord-sur-Erdre, 4 juillet à Paris au Fnac Live Festival, 5 juillet Bobital, 6 juillet Albi. Il paraît que tout ça c'est complet.
Je ne sais pas ce qu'il en est de.
On m'a dit.
Ouais. En tout cas, on a fait plus de 2 ans de tournée là où c'était tout complet.
Vous dites à la fois que ça vous fait peur, ce succès, que ça vous transforme, que ça vous grise un peu trop.
Oui, oui, non, ça.
C'est-à-dire qu'après, vous n'allez plus souffrir. De quoi vous allez parler, Eddie?
Bah oui, c'est ça. Hein. Je ne sais pas.
Ah, mais vous avez quand même des chagrins d'amour et tout ça, rassurez-vous.
Ah bah oui.
Ah oui. Bon alors.
C'est vrai.
Il y a ce fameux Jimmy là qui n'a pas été très cool, ouais. J'ai l'impression. Hein.
Ouais. C'est bien écouter l'album.
Bah
alors.
Oui.
Ouais.
Il a eu sa chanson, il n'a pas été cool, mais en plus, en cadeau, il a une belle chanson.
Voilà. C'était quoi la question?
Vous avez plusieurs influences, Eddie De Pretto, parce qu'en banlieue, vos copains écoutaient du rap, et puis votre maman, elle écoutait Barbara, Brel, Brassens, donc vous avez cette double culture en fait. Et vous n'avez jamais préféré l'un à l'autre, vous avez toujours été curieux de tout en fait.
Cette culture-là, je m'y suis faite un peu plus tard, mais en tout cas, le rap et même le R&B des années 2000 étaient constamment là.
Parce que quelque part, enfin, moi je ne suis pas une analyste musicale. Hein,
Si vous êtes modeste.
Non, mais quelque part, c'est de la chanson française ultra moderne et complètement ancrée dans l'époque. Mais il y a des textes magnifiques aussi.
Merci Anne.
Ben H a des choses à vous dire,
Eddie
De Pretto.
Très bien. Oui, enchanté, Eddie De Pretto. Jeune homme talentueux et muni d'une plume sensible et sublime, variant entre tendresse et brutalité, poète amoureux du maniement des mots. Quelle joie immense de chroniquer ce midi quelqu'un à qui on pourrait faire presque la même description. Je rencontre aujourd'hui l'artiste que j'ai personnellement le plus écouté ces 2 dernières années. Je pèse à moi seul bien 10% de vos écoutes sur Spotify. Vous êtes entré dans ma playlist aux côtés de ma Sainte Trinité, composée de Renaud.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi.
De Barbara.
Quand
viendras-tu ?
Ou encore de, du très grand Patrick Sébastien. Ouais, dit de Préto, moi j'aime les textes.
J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses.
Alors autant vous le dire d'entrée, a priori ce midi, aucune partialité dans mon papier. Je vous adore, de votre musique jusqu'à ce que vous dégagez. Je suis un fan conquis, voilà, je vous le dis en toute sincérité. Mais j'ai aussi dit ça hier à Anne Roumanoff, ce à quoi elle m'a répondu, Ben H, je te paye pour balancer de la vanne, le de Préto, tu me le tartines façon biscotte comme les autres. Je veux du croquant. Alors si par malheur, au détour d'une punchline, vous y voyez rouge, hein, bah vous auriez raison, hein, car c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'Anne. Eddie de Préto, c'est un peu la rencontre entre Jacques Brel, Eminem et Ron Weasley, l'ami d'Harry Potter, un flow unique pour un son magique que vous qualifiez vous-même de non-genré, des textes parfois précis et parfois au sens plus flou, le tout dans un niveau de langage d'académicien, hein, une maîtrise du texte que, et de la métaphore pas si commune dans le paysage francophone. Hein, j'ai personnellement beaucoup de mal avec ceux pour qui le dictionnaire y a pas moyen, je dirais même plus y a pas moyen, djadja. C'est comme ça, Eddie de Préto, je préférais toujours une rime riche avec le mot muqueuse que pas de rime du tout avec des onomatopées. Oui, j'aime l'artiste que vous êtes et souvent quand on aime l'artiste, eh ben, c'est qu'on s'y retrouve en lui. Hein, n'y voyez là aucune promesse parfaitement déplacée, hein, mais comment ne pas me retrouver en vous, Eddie de Préto, hein, quand vous déclarez, je vous cite, ma mère m'a mis au théâtre parce que le sport, j'étais pas fait pour ça, bah, comment vous dire que ça pourrait être la première phrase de ma biographie, ce truc-là, hein. Oui, vous et moi sommes deux mecs de banlieue, pas du tout équipés naturellement pour devenir footballeur, basketteur, handballeur ou presque tout ce qui se finit en sueur. Hein, je dis bien presque tout ce qui se finit en sueur, hein, parce que si j'en crois vos évocations aux dites muqueuses, hein, dans le titre La Fête de Trop, hein, pour moi d'ailleurs c'est plus qu'un titre, hein, La Fête de Trop, c'est tous les matins que j'appelle ça un soir de semaine. Très vite, vous et moi, on a compris qu'on allait pas pécho grand-chose à la salle de sport, hein, si ce n'est des courbatures, un abonnement de 700 euros. Alors bah, dans mon cas, c'est à perte. Hein, l'action de muscler son corps réclame la nécessaire présence initiale de muscles, dont je suis parfaitement dépourvu. Bref, Eddie de Préto, je suis capable de vanner l'ensemble de la jeune chanson française ou même faire preuve d'autodérision. Mais vous l'avez compris, je ne peux pas vous effleurer. À mes yeux, vous avez dans cette chronique le même statut que sur la scène musicale actuelle et future. Vous êtes intouchable. Bravo et merci de m'avoir écouté. Merci.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H et notre invité Eddie de Préto, venu nous parler de l'album culte, nouvelle édition de son premier album Cure. Ne bougez pas, en revue.
Romanov sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Ben H.
Oui.
Et notre invité Eddie de Préto qui a une grande tournée cet été dans toute la France. On a donné quelques dates, mais il y a le 7 juillet Arras, 11 juillet Montreux en Suisse, 12 juillet Thonon-les-Bains, 13 juillet Nîmes, 24 juillet Lyon, 25 juillet Civray, 26 juillet Métabief, 3 août Malès 3, 4 août Braine-le-Comte en Belgique. Après, vous partez en vacances, Eddie de Préto ?
Oui.
Oui,
ouais.
Mais vous devez avoir des problèmes au soleil, vous. Non, mais vous avez une peau très pâle, vous êtes un peu...
Oui, c'est vrai que j'ai une peau très pâle. Je prends de la carotène un mois avant de partir.
C'est vrai,
ouais, j'ai
vous
des petits conseils comme ça. Eh bien si, Anne,
ah oui,
mais bien sûr.
Ah oui,
vous allez me vexer là, ouais.
Non, je ne sais pas, je vous demande.
Non, bah, je bronze, j'ai un teint un peu allé rouge, mais ça me va très bien.
Quel regard vous portez sur l'homophobie en ce moment ? Parce que c'est vrai que d'un côté, la société est plus tolérante et de l'autre côté, il n'y a jamais autant d'actes
homophobes. Forcément.
Vous n'avez pas voulu non plus devenir porte-parole. Vous dites que ce que vous êtes suffit à dire qui vous êtes, il n'y a pas besoin.
Moi, je veux juste raconter mes histoires, qu'elles soient homo ou pas, on s'en fout. Enfin,
En fait, ce qui est agaçant, c'est quand il y a un homosexuel qui est connu, on le prend toujours comme porte-drapeau de la
cause.
Oui,
c'est ça, c'est ça. Et puis, je n'ai pas forcément les épaules et la légitimité d'aller défendre un propos précis d'une communauté précise. C'est hyper vaste, les homos comme les hétéros, c'est hyper vaste. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que c'est une parole pour une personne et ça représente. Enfin, ça représente tellement de complexité dans chacune des communautés, dans chacune des personnalités, que je pourrais pas, moi tout seul, représenter les PD de France. Genre.
Léa Landau a des choses à vous demander.
Oui, Eddie de Préto. Alors, après votre virilité abusive, vous avez le droit à mon interview abusive aussi, parce que je vais vous poser trop de questions. Vous allez
très
voir,
bien.
Je me suis lâchée. Alors, déjà, Préto, je me suis demandé si ça pouvait être très bien aussi le masculin de Préti. Joli, comme vous.
Mais merci.
Ouais. Et Eddie, je me suis demandé si ça venait d'Eddie Barclay.
Ben non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, je crois que ma mère voulait m'appeler Mehdi à l'époque.
Ouais.
Et puis il y avait un jeune dans le quartier qui s'appelait Mehdi et qui était insupportable, je crois, donc elle a enlevé le M.
Ah ouais. Alors moi, à chaque fois, je me dis que je ne pourrais pas être avec quelqu'un que je ne fais pas rire, et vous pourriez être avec quelqu'un qui n'aime pas vos chansons.
Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. Peut-être. Ouais. En tout cas, qui écoute pas la chanson, ouais, pourquoi pas. Tant mieux, même.
Ouais.
J'évite d'établir des relations avec des fans ou des gens qui kiffent les chansons, ouais.
Bon, alors, c'est quoi vos prochains thèmes de chansons, Eddy de Préto ? Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? La prostitution.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça va être le prochain thème de la chanson.
Ça va être le prochain album.
Ah, complètement. Ça vous racontez n'importe quoi, là.
Non, je raconte peut-être pas n'importe quoi, mais c'est dans des phases d'écriture énormes, donc on sait
vous
pas.
Vous avez commencé à écrire ce deuxième album ?
Oui, je suis en train d'écrire, bien sûr. Donc je sais pas exactement ce
vous
qui va...
Vous partez dans plusieurs directions.
Oui, j'écris plein de choses.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes produit par les mêmes producteurs que Booba, et ouais. Vous dites, vous avez rencontré plein de producteurs pour votre album, et avec eux, ça a tout de suite cliqué, ça a été immédiat.
En tout cas, c'est avec eux où ça a été le plus pertinent, où ils ont su respecter les paroles, les entendre, comprendre le sens, et amener et les tapisser pour que ça aille beaucoup plus haut, beaucoup plus loin.
On va écouter un dernier extrait.
Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin, plus que des mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien. Ce n'est pas grave si tu l'appelles mon petit lapin et tu effleures son petit machin qui corrèle bien avec le tien. Ce n'est pas grave si tu sens des envies passagères.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Et Eddy de Préto, on a une tradition dans ces émissions. Chaque lundi, on démarre une histoire et aux invités de la poursuivre chaque jour. Lundi, l'histoire a été démarrée par Jean-Marie Rouard, poursuivie hier, mardi par Christophe Barbier, hier par Harry Roselmack. À vous de la poursuivre aujourd'hui avec un mot tiré au hasard dans ce chapeau.
Créteil.
Créteil, votre ville natale. Donc à vous de poursuivre l'histoire en employant le mot Créteil. Il faut faire juste une ou deux phrases. On écoute ce qu'ont fait les autres.
J'étais amoureux. Ce n'était pas la première fois. Ni la dernière, j'espère.
Alors, j'ai rencontré Edith. C'était à l'aube. J'ai vu Edith tôt.
Après la nuit que j'ai passée, je me demandais si voir Edith à ce moment-là était la bonne chose. Le dilemme était très fort. Puis je plongeais dans son regard. Et à ce moment-là, je décidais. Il fallait rester.
Je me dis que Edith était un peu trop ennuyante et que je préférais finalement Valentin. Valentin qui habitait à Créteil. Et qui, je crois, me plaisait bien.
Merci, Eddy de Préto, d'être passé nous voir. On rappelle votre album culte qui vient de sortir, la réédition de l'album Cure, avec 4 inédits et 3 versions instrumentales. Et puis, vous serez en tournée dans toute la France cet été, à partir de demain, samedi 8 juin, à Saint-Laurent-de-Cuve, dimanche 9 juin, Talence. Il y a une vingtaine de dates l'été. Merci, Eddy de Préto.
Merci,
c'est un plaisir
merci
de vous recevoir.
Merci.
Merci. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.